Seigneur.
La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, nous avions vu deux femmes de foi. Deux femmes de foi dont l'une était avec des dettes, car son mari était décédé avant d'avoir pu tout régler. Elle était là avec ce problème, étant allée voir donc l'homme de Dieu qui lui avait donné cette solution en prenant ce qu'il y avait chez elle, un vase d'huile, et en demandant à ses voisins plusieurs vases, et de mettre l'huile qu'elle avait, c'est ça, dans les autres vases, et comment le miracle s'est opéré. Elle a mis sa foi en action. Et l'autre femme, une autre femme qui, elle, avait des moyens, n'était pas pauvre, mais qui par une parole du Seigneur a eu donc un enfant, et qui quelque temps après est décédé, et par l'intermédiaire de l'homme de Dieu, il y a eu cette résurrection de cet enfant. Et suite après ces deux histoires là qu'on a vu la semaine dernière, que l'on trouve dans 2 Rois 4, suite à ça, il y a une troisième histoire que j'aimerais que l'on puisse voir ensemble. Donc dans 2 Rois au chapitre 4, 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il entra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine !» Il en jeta dans le pot et dit « Serre à ces gens et qu'ils mangent !» Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Là, nous avons quatre versets, on va le voir. Quatre versets, mais d'une richesse incroyable. Il y avait une famine dans le pays. J'ai été regarder, on connaît bien sûr la famine, mais je voulais voir la définition qu'ils en donnent de la famine. Manque presque total de ressources alimentaires dans un pays, une région aboutissant à la mort ou à la souffrance de la population. La famine, il y avait une famine dans le pays, nous dit le verset 38. Aujourd'hui, quand on parle de famine, on a les uns et les autres des images qui viennent là dans notre esprit, dans notre tête, des images terribles qu'on a pu voir, etc., à la télé, par les médias, et toutes sortes de choses, ces images d'enfants ou pas, les côtes apparentes, etc., la peau, sur les autres, toutes sortes de choses, la famine, des images qui ne nous laissent pas insensibles par ailleurs. Et d'ailleurs, quand je repensais à ça, et je méditais ça, et je me disais, mais on se demande même si on est sur la même planète. Lorsque ces images nous parviennent, quand on voit tout ça, on se demande, et du moins je me demande, si on est sur la même planète. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a une telle abondance, notamment dans notre pays, là il est question, il y avait dans ce pays. Et j'avais vu ces statistiques là, que dans ce pays, il y a ici, on gaspille environ 1,2 million à 6 millions de tonnes de nourriture par an. Cela représente en aliments comestibles 38 kilos de nourriture jetée chaque seconde. Vous avez bien entendu, 38 kilos de nourriture comestible jetée à chaque seconde qui passe.
Et pour ça, je me demande si on est sur la même planète. Et de l'autre, la famine. La famine. On a même du mal. On a même du mal à s'imaginer une telle réalité. Que les ressources alimentaires viennent à épuisement. Surtout, n'est-ce pas, dans notre société de consommation. De consommation où la nourriture ne manque pas. Les étalages sont là sur le marché, etc. La nourriture est là dans les grandes surfaces. Moi, je suis à chaque fois aussi impressionné, hein, les rayons immenses qu'il y a là, toute cette nourriture là qu'il y a partout. Ils sont pleins. Mais là, pour eux, c'était le cas. La famine, c'était le cas. Et le texte nous dit qu'il y avait une famine dans le pays, pas dans la ville où ils étaient. Il y avait une famine dans le pays. C'est comme si en France, il n'y avait pas juste une famine, un manque à Nantes ou un manque de nourriture à Paris ou juste à Montpellier. C'est comme si dans tout le pays, il y avait ce manque-là. Imaginez, il y avait une famine dans le pays. Et comme le texte continue, et comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui. Et les fils des prophètes n'ont pas non plus été épargnés par la famine. Et là, Élisée revient, il arrive et ils sont là. Et Élisée est conscient que les hommes qui sont devant lui ont un besoin bien précis. Ils ont faim. Ils ont faim. Ce sont des hommes affamés qui sont devant lui. Et là, pour Élisée, c'est pas de leur dire, de leur raconter ce qui vient de vivre, parce que si vous regarderez ceux qui étaient la semaine dernière, on l'a vu. Juste avant ça, il a vécu quand même une résurrection d'un enfant qui était mort. Et il arrive pas là en leur disant, ce que je viens de vivre avec l'enfant de la tsunamite, etc. J'ai prié, je suis allé, je me suis étendu, etc. Et comment la chaleur est revenue en lui. Il a éternué cette fois, il est revenu à la vie. Non, là, c'est pas ça de raconter. Là, ils sont affamés. Et comme on dit, il y a un dicton qui dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Ventre affamé. La pâte d'oreille. Il dit à son serviteur, fais cuire un potage. Un bon potage. Surtout à l'approche là, de l'hiver, là, le froid arrivant, un bon potage. Élisée demande à son serviteur, certainement Géasi, ça devait être, de préparer ça. Mais regardez avec moi au verset 39. Au verset 39, il est dit, l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Mais, l'un des élèves d'Élisée, des fils des prophètes, sortit dans les champs pour aller cueillir tout ça. Mais pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi est-il sorti pour aller chercher des herbes, de la vigne sauvage, etc. Puisque Élisée venait de dire à son serviteur de leur faire un potage. Pourquoi il est parti chercher tout ça? Et je me suis dit, j'ai essayé de réfléchir, et je me suis dit, est-ce que l'un des élèves en allant voir le potage, s'est-il dit, il n'était peut-être pas convaincu. Est-ce que ça va me remplir le ventre? Est-ce que je vais être rassasié? Rappelez-vous qu'il y a la famine. Donc imaginez le potage qu'il a dû faire avec, pour ainsi dire, rien. Je me suis dit, mais peut-être il me faut quelque chose de plus consistant. Et puis, le serviteur, est-ce qu'il s'y connaît vraiment en potage? Ah, moi, je vais y ajouter là. Je vais y ajouter de quoi donner un meilleur goût. C'est moi qui essaye d'imaginer. Et de là, il sort. Et il va, et il cherche, il prend des herbes, etc. De la vigne sauvage, des coloquintes. Des choses à rajouter. à rajouter au potage. Et dans notre monde aujourd'hui, il y a quantité de gens qui regardent l'évangile comme quelque chose qui n'a pas de saveur. Et pourtant, ces personnes-là n'y ont jamais goûté. Comme ces personnes qui parlent de l'évangile, etc. Mais c'est l'opium de ceci du peuple, c'est ceci. Tellement de choses ont été dites sur l'évangile. Et quand des fois vous parlez avec une personne et vous lui dites et vous lui demandez, mais est-ce que vous êtes déjà allé à l'église? Est-ce que vous êtes déjà allé écouter? Ah non. Mais de quoi vous parlez? Verset 39. Donc il sortit et parmi ce qu'il trouva donc des herbes, de la vigne sauvage et des coloquintes. Coloquintes. Quelqu'un a dit, parce que ce mot-là, coloquinte, un jour quelqu'un a dit, les coloquintes, ce n'est pas une toux que l'on attrape en colonie de vacances. Coloquintes. De nombreuses personnes cultivent des coloquintes, et ça j'ai vu ça sur des choses qui concernent le jardin et tout cela. Les coloquintes, ils cultivent des coloquintes dans leur jardin parallèlement aux courges comestibles. Cela n'est pas tout à fait sans danger, car les coloquintes contiennent généralement de la cucurbitacine, une toxine naturelle pouvant provoquer une grave intoxication. Que se passe-t-il lorsque on cherche autre chose que Dieu nous offre? Le prophète Élisée dit, fais un potage. Il y a un potage qui est là. Mais oh non, je vais aller chercher d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe quand je vais aller chercher d'autres choses que Dieu offre? Eh bien, on ne peut récolter que des choses mauvaises. Il va aller là et puis il va prendre des choses qui pour lui semblent comestibles. Ah, ça pourrait être bien ça à manger. Et le texte nous dit qu'il en prit plein son vêtement. On voit que il avait vraiment faim, vraiment faim. Et comme pour dire plein son vêtement, comme pour dire avec tout ça, au moins avec tout ça, je vais être calé. Au moins avec tout ça, je vais être repu. Et on continue. Il arrive là et quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Il les coupa en morceaux. Il arrive et il coupe l'herbe, il coupe la vigne, il coupe les coloquintes. Et je me disais, oh, il devait être content en coupant tout ça. Oh, ça va être bien avec le potage, etc. Il coupe tout ça et il met tout ça dans le potage. L'évangile est-il suffisant? Poser la question parce que des personnes que par rapport à leur acte semble que pour elles l'évangile n'est pas suffisant. Certaines personnes rajoutent des choses sans savoir finalement ce qu'ils rajoutent. Mais des personnes ils vont et puis ils sont comme cet élève, ils cueillent telle philosophie, etc. Ils prennent un peu, ils mettent, ils vont là-bas, ils prennent tel dogme qu'ils ont vu dans le bouddhisme, ça c'était bien, hop, ils mettent. Et puis dans telle religion, ils ont trouvé ça pas mal, et ils mettent dedans. Ils ajoutent au potage, ils font leur mix, ils font leur tambouille, sans savoir que ces choses s'avèrent toxiques pour l'âme. Est-ce que vous avez déjà entendu cela d'une personne, moi je l'ai déjà entendu, d'une personne vous dire, mais de toute façon, toutes les religions sont bonnes. Toutes les religions sont bonnes. Le principal, c'est d'être sincère. J'ai déjà entendu ça combien de fois? Toutes les religions sont bonnes. Le principal, c'est d'être sincère. La sincérité ne suffit pas. Et là, je vais vous donner des exemples. Que dans plein de choses, la sincérité ne suffit pas. Moi, par exemple, je n'y connais rien en champignons. Pour moi, là-bas, j'y connais rien en champignons. Je peux aller en forêt, etc. Et puis en ramasser de très beaux, mais entre parenthèses, qui ne sont pas forcément très bons. Je les ramasse, mais est-ce que, et si j'en ramasse, qui sont, comment on dit, vénéneux? Et si j'en ramasse sans savoir qu'ils sont vénéneux et que moi je suis sincère, ah, oh, il est beau, ah, ça va être bon. Mais dites-moi, est-ce que ma sincérité va m'empêcher de m'empoisonner? Hein, non. Est-ce que ma conviction va être plus forte que le poison? Ben non. Bien évidemment, je peux être sincère et être dans l'erreur. Et pour poursuivre comme exemple aussi, on peut être sincère et être dans la mauvaise direction. Peut-être certains ont déjà entendu cette histoire. C'est un homme qui doit prendre le train. Il doit prendre le train et puis il était un petit peu en retard. Il arrive là sur les quais, etc. Et puis il a pas pris le temps de regarder tout ça. Et il demande à quelqu'un, oui, voilà le train en partance de tel endroit, est-ce que vous savez le quai que c'est? Et la personne lui dit, ah oui, c'est quai numéro tant. Et il y va, il fonce, etc., s'appuyant sur, il y va, tout ça, le train est là, il monte dedans, il s'assoit. Et puis le train démarre, etc., voilà. Et puis la voix se fait entendre là. Voilà, nous sommes bien dans le train en partance pour telle ville. Et lui, il est là dedans, convaincu, sincère. On lui avait dit, c'est là. Il était sincère, convaincu. Il y va. Il était dans la mauvaise direction de là où il devait se rendre. On peut être sincère, mais être dans la mauvaise direction. Je me rappelle, j'étais plus jeune. Et puis on était parti donc en déplacement avec mes parents. Je crois que c'était pour un mariage, quelque chose comme ça. Et puis, on arrive dans la ville. À l'époque, c'était à l'époque encore des cartes, il n'y avait pas le GPS. Donc, j'étais bien plus petit, il n'y avait pas de GPS encore. Et on arrive là, dans la ville, et puis, il ne trouvait pas et tout. Et puis, à un moment donné, il s'arrête, il y a une personne qui est là, bien sûr, baisse la vitre. Il demande, oui, est-ce que vous connaissez tel endroit, etc., tout ça, pour aller à tel endroit. Et la personne vous dit, ah oui, 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 alors vous allez, vous prenez cette direction-là, etc. Vous allez, vous passez par là et puis vous verrez, ce sera bon. On suit les informations, idem. On y va, mon père va. Et puis il n'y a pas la chose, je ne trouve pas. Ce n'est pas possible. Et puis, on demande à une autre personne. Est-ce que vous connaissez tel endroit? Ah oui, 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 c'est là-bas, il faut prendre... C'était une autre direction que ce que l'autre personne avait donné. Les personnes, elles, étaient sincères, n'est-ce pas? Et quand finalement, on a eu trouvé l'endroit, c'était aucune des deux directions que les deux personnes avaient données. Et les personnes, elles étaient sincères. Oui, 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 c'est là-bas. C'était l'erreur. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a plusieurs chemins, etc. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu le Père, c'est par Jésus-Christ. Et là, assurer de ne pas être dans l'erreur. Je reprends mon histoire avec cet homme. Alors, il a coupé tout ça, il a mis dans le potage, et c'est bien marqué, car on ne les connaissait pas. Mais on ne les connaissait pas de quoi, puisqu'il a pris, des herbes, de la vigne et des coloquintes. De quoi il est question quand il dit on ne les connaissait pas? Les coloquintes. Les coloquintes ressemblent aux concombres comestibles. Les coloquintes. Et vraiment, quand vous regardez les photos, les images, c'est à s'y méprendre. Les fausses doctrines les plus pernicieuses sont celles qui ont l'apparence de la vérité évangélique. Évangélique. Ça ressemble à l'évangile, mais ce n'est pas de l'évangile. Ça ressemble. Ils chantent les mêmes chants. Il y a un pasteur, oui, mais ce qu'il enseigne... On a fait une visite dernièrement, et en parlant avec cette jeune femme, qui était baptisée il y a deux ans, c'était en 2013 ici. Et en parlant avec elle, elle nous racontait à son travail, elle parlait avec des collègues qui lui disaient, voilà, être chrétienne, elles sont chrétiennes. Et puis, en parlant avec elle, elles lui ont remis une Bible. Et puis, quand on arrivait chez elle, elle nous a dit, voilà, elles m'ont donné ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Alors, on a regardé déjà, le premier aspect est déjà fait bizarre, ce qui a marqué dessus, tout ça, interdit et tout, à la vente. Bon, alors, l'intérieur, on ouvre, ah oui, l'intérieur, les livres sont là, ok, mais ça fait, de tenir ça en main, ça fait bizarre. Et puis on parle, et puis elle nous dit ce que ses collègues lui disent, voilà comment ça se passe et tout ça chez nous. Mais elle nous dit, à un moment donné, ses collègues, elles en arrivent qu'à parler que d'argent. Au bout d'un moment, elle n'arrive qu'à parler que d'argent, que d'argent. Et puis elle nous disait que ça lui faisait bizarre. Et du coup, parce qu'elle est quand même jeune dans la foi, un peu plus de 2 ans baptisée, elle est jeune dans la foi. Et comme on a entendu ce matin, elle avait des questions. Et puis on lui a parlé, on lui a expliqué les choses. Et puis elle disait, voilà, et puis aussi, oui, là où ils vont, alors elle parle de gourou, tout ça. Puis l'argent là-bas, bien sûr, l'argent, ça va, c'est pour le pasteur, ça va, c'est pour le pasteur. Alors là, c'est dérangeant. Là, c'est dérangeant. Et des personnes vont dans ça ressemble. Alors surtout quand on ne s'y connaît pas, on peut croire que c'est ça, mais c'est pas ça. Et là, ce sont des concombres sauvages, hein, et des fruits très décoratifs, mais aussi, ce qu'il faut savoir, j'ai été regardé. Mais que c'est ça là, les coloquintes, il y a dedans un effet laxatif. C'est ce que c'est que laxatif, hein, produit accélérant le transit. Et dans ces fausses doctrines là, quand on s'affectionne de ces fausses doctrines, quand on s'y adonne, eh ben on finit par se vider. On se vide de ses forces, on se vide de son assurance. On a vu des personnes à revenir, même ici, revenir ici, ayant été dans des endroits comme ça. Les personnes reviennent ici. On a vu des personnes brisées complètement. Ah, c'est sûr. Ah, il y avait l'ambiance, il y avait tout ça. Il y avait tout, mais ce qui était enseigné était toxique pour leur âme. Quand une personne était revenue là, nous disant que l'endroit où elle était allée, on disait que le pasteur, entre guillemets, avait mis la Bible par terre, et s'était mis dessus, disant que sa parole ayant autorité dessus. Et des gens vont dans des choses incroyables. Ils se vident de force, de leur assurance. Des hommes, des femmes, qui reviennent troublés, qui sont troublés, déstabilisés dans leur foi. Alors, ils se vident, sont vidés sur ce plan-là. Ils se vident, alors que c'est drôle, ils se vident alors que Dieu veut nous remplir. Et pour certains, ils se vident d'autres choses aussi. Oui, les poches ont été dépouillées, vidées. Cet homme accueillit n'importe quoi, des choses qu'il ne connaissait pas. Il a pris des risques, même celui d'empoisonner les autres. Puisque au verset 40, il est dit, « Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. La mort est dans le pot. La réaction est immédiate. Il y a quelque chose de nocif là-dedans. Je me suis dit, quelle désillusion pour eux, quand ils ont commencé à en manger. Alors que, rappelez-vous, c'est la famine, ils ont faim, terriblement faim. Ils disent, voilà, on va manger quelque chose, on va certainement se régaler. Et là, la mort est dans le pot. Dans ce monde, il y a foule de choses qui sont capables de nous empoisonner. foule de choses. Des jeunes et des moins jeunes, en recherche d'autres choses, ont ramassé n'importe quoi sur leur chemin et sont revenus chez eux avec du poison. On peut parler de la drogue, on peut parler de tellement de choses, en recherche d'autres choses. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Oh, la mort est dans le pot. Le salaire du péché, c'est la mort. Un tel, un poison là, qui veut faire son œuvre. Mais j'aimerais vous dire que tel, que comme on parle aussi de poison, on parle aussi d'antidote. Et là, le texte aussi nous révèle un antidote. Et là, alors que la mort est dans le pot, verset 41, Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, serre à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. De la farine, l'antidote de la farine. Mais pourquoi la farine? Pourquoi la farine? Parce que plusieurs ici connaissent le procédé de fabrication de la farine. Avec le blé, n'est-ce pas, qui est mou, qui est broyé, qui est broyé là. Voilà. Et quand on y pense là, il y a l'image qui est là. Il y a l'image qui est là, l'antidote au poison. J'aimerais vous dire que si vous avez goûté aux coloquintes de ce monde, toutes ces choses mauvaises, toxiques pour votre âme, j'aimerais vous dire qu'il y a un antidote, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même d'ailleurs qui a dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Le grain de blé qui a été broyé, qui a été brisé. Regardez avec moi dans Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, verset 1er. Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé, on a eu un brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Il a été brisé pour nos iniquités, comme ce blé-là. Et là, Élisée dit, prenez de la farine et jetez-la dans le pot. Là où les choses mauvaises étaient dans le pot. Et ça nous parle de notre cœur. Puisque Jésus a dit, c'est du cœur de l'homme que sortent les adultères, les mensonges, les vols, les impudicités, etc., etc. Jésus, là, pointe du doigt l'origine des mauvaises choses. Il dit, c'est le cœur. Élisée dit, jetez de la farine dans le pot. Et Jésus, qui est le blé brisé pour nous, il faut qu'il vienne faire sa demeure dans nos cœurs, afin que ce qui est là soit assaini et soit purifié. Alléluia. Et quand Jésus vient dans un cœur, eh ben, il purifie du poison du péché. Et du coup, la mort qui était dans le pot, la mort fait place à la vie. Et qu'il mange. Et il dit ceci, hein, Élisée, jette la farine dans le pot et qu'il mange. Et qu'il mange. Et n'est-ce pas aussi que, avec la farine, Avec la farine, on peut faire du pain aussi. Hein? Du pain. Et Jésus dira, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Si quelqu'un mange, comme il les a dit, leur a dit, et qu'il mange, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jean 6, 51. Ce texte, ce passage, il est magnifique. On voit des coloquintes, hein, du potage, un homme qui barre de la farine, mais ce qui est dedans, il y a un message pour nous qui est là. Mais l'histoire, je conclue, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Regardez avec moi au verset 42, donc de 2 Rois 4, verset 42. Parce qu'il faut aller, au bout, hein, jusqu'au bout du chapitre, jusqu'à la fin de l'histoire. Verset 42, un homme, arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 hommes ?» Ils étaient une centaine d'élèves. Hein. Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Le pain. Cet homme-là arrive, on ne sait pas qui c'est. Son identité n'est pas révélée. On sait juste qu'il vient d'un endroit qui s'appelle Baal Shalisha, qui signifie Seigneur du tiers. 20 pains, il arrive là, il a 20 pains. Et puis il y a 100 personnes. Et là, bien sûr, le serviteur, il raisonne sur le plan rationnel. 20 pains, 100 personnes, ça va pas le faire. Et là, Élisée, il est sur un autre plan. Et là, la parole de Dieu sort, il dit, donne-leur. En gros, le Seigneur, il va multiplier ça. Et puis, c'est ce qui se passe. Et cet homme qui est arrivé, on ne sait pas c'est qui, etc. Il arrive là, c'était la famine, il arrive là, moi je dis, il arrive là aussi à un moment particulier, au bon moment. C'est l'homme providentiel pour eux. Et on ne sait pas si quelqu'un l'a envoyé, mais... Pensons à Jésus. Jésus, il est l'homme providentiel. Il est l'homme qui est venu sur la terre au bon moment. Galates nous dit que quand les temps fixés sont arrivés, Dieu envoya son fils né d'une femme, et sous la loi, etc., afin qu'il nous rachetât. Jésus aussi est mort sur la croix. Mais Jésus, lui, on le sait par contre, il a été envoyé par quelqu'un. Il a été envoyé par Dieu. Mais ce que je vois, c'est que Jésus étant envoyé est venu, mais Jésus n'est pas venu avec du pain comme cet homme dont on ne connaît pas l'identité. Jésus n'est pas venu avec du pain puisqu'il est lui-même le pain. Il est lui-même le pain. Et ça, c'est plus grand encore. Il est lui-même le pain qui donne la vie au monde. Jean chapitre 6. C'est ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Un texte que l'on connaissait, qui peut paraître simple, et moi aussi en le méditant, une richesse incroyable. La parole de Dieu est merveilleuse. Le Seigneur est bon, il est celui qui veut assainir, purifier nos cœurs. Il est également celui qui veut pourvoir aussi. Il veut pourvoir dans les temps peut-être de famine spirituelle. Temps de famine spirituelle, vous êtes là peut-être, et il y a comme quelque chose qui manque, et Dieu est celui qui veut donner le pain du ciel. Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait courber nos têtes quelques instants et fermer nos yeux? Alléluia. Peut-être le groupe, si on pourrait s'approcher pour prendre un chant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Je vais te bénir parce que, Seigneur, elle est esprit et vie. Merci parce que tu nous apprends tous les jours, tu nous apprends. Demain, tu nous apprendras encore. Après